ça le choque. On a un groupe de jeunes fait par les vieux.
Quelle idée de l'homme avez-vous ?
Eh bien, je crois que l'homme a été, sinon un mauvais rêve, sinon un cauchemar, du moins une figure très particulière, très déterminée, historiquement située à l'intérieur de notre culture.
Vous voulez dire que c'est une invention ?
C'est une invention que l'homme.
Eh bien, bonjour chez vous, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2, c'est À Vie d'Ordure qui commence. Ce soir, une émission hors série, je dirais plutôt une émission hors série. Alors, si vous me permettez ce jeu de mots approximatif, et bon, bah, pourri, on va pas se mentir. Pour l'équipe, alors, Jérôme, il est dans le VAR et c'est Lila, ma caution SKIN, qui représente la MIF ce soir. Tout ça pour dire que ça n'empêche pas Avis d'Ordure d'être encore et toujours plus à la pointe du gossip punk et de l'expérimental, à savoir inviter un groupe qui n'a encore rien enregistré. Et oui, alors attention, avertissement, cette cascade radiophonique va être réalisée par des professionnels trop balèzes. N'essayez pas de le reproduire chez vous.
Et lorsqu'ils montent sur le ring, ils prennent des risques bien réels et endurent une douleur inimaginable. Des os brisés, des muscles déchirés, des membres disloqués, des ruptures. Soyez intelligent, ne mettez pas votre vie en danger. Ne faites pas ça chez vous.
Dans les studios, nous recevons Shell Shock. Bonjour.
Salut, salut.
Salut.
Bonjour, bonjour.
Salut.
Pour commencer, je citerai donc Antonin Artaud, voilà, qui m'a aidé à préparer cette émission. La vie est un coup menté. Ça commence bien, hein, mais...
Ok.
Et l'ambiance.
Pour l'échauffement, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter et dire ce que vous faites dans Shell Shock ?
Moi, c'est Alex et je fais la guitare, du coup.
Moi, c'est Alonso et moi, je fais la batterie.
Moi, c'est Ezekiel, j'ai fait la basse.
Et moi, je m'appelle Mathéo et je fais le chant. Parce qu'on pourrait penser, approchant, une forme de chant.
On a écouté un son là au tout début, c'était votre premier concert, et cet extrait a été rendu possible grâce aux productions du Chauve, qui est un collègue capillaire solidaire, et ça a été enregistré au skatepark Le Petit. Donc on te salue et merci, parce que grâce à lui, on peut écouter quelques titres de votre set. Donc vous semblez venir d'horizons musicaux différents, la Oi par exemple, hardcore.
Surtout du punk en fait, l'histoire en fait c'est le punk hardcore, la Oi. C'est juste en fait des comment dire des différentes têtes de gondole d'un même rayon, hein. On va pas se mentir, hein. C'est comme ça quoi.
Et vous êtes rencontrés comment?
Alex il va raconter comment il m'a rencontré.
Ouais,
il y a longtemps.
Ouais, c'est clair. Ouais, c'est, ouais, moi c'était mon premier groupe de punk à l'époque, j'avais 16 ou 17 ans. Et ben Mathéo, enfin j'habitais à Metz, donc et Mathéo nous m'avait écrit pour me demander si on voulait jouer avec notre tout premier groupe de punk à Montfort avec 15 piges. On était vraiment ados et
ça s'appelait comment les...
Je me souviens plus.
C'est le premier dossier de la soirée quand et même.
Chaos technique
et bim. La mémoire. Ok.
Ouais, exactement. Et donc du coup, ouais, il nous avait, on avait fait juste une petite démo, il nous avait contacté pour savoir si on voulait jouer au Vignol, si je me trompe pas.
Ah bien.
À Paris,
33 rue des Vignoles, ouais. Local de la CMT à Paris, 75€.
Et on avait ouvert pour un groupe qui s'appelle Blaggers.
Ah bien, diversité.
Je sais pas, à l'époque c'était IKA.
Ouais, c'est ça, exactement.
Parce que Mathilde Blaggers était déjà décédé, malheureusement. Mais alors, par contre, c'était, je sais pas si tu te souviens, mais c'est quand même une sacrée version des Blaggers. C'est complètement déglingué.
C'est la mieux, je trouve.
Ouais. Ils avaient un chanteur, une espèce de toaster.
Ouais.
La morale m'empêche de dire ce qui s'était passé juste avant le concert, mais le mec est monté sur scène gonflé à bloc. Il a fait un concert, mais peut-être un des meilleurs concerts que j'ai vu de ma vie. En tout cas, le meilleur concert des Vignoles, c'est ça.
C'était excellent, ouais, vraiment, c'était incroyable. C'était à 22 ans, ou non, 21 ans, ouais, 21 ans. Et ouais, donc c'était notre premier concert hors en plus de Lorraine, quoi. Donc c'était énorme. Puis pour des kids, quoi. Donc c'était assez fou. Puis bon, ben Matteo, je le connaissais aussi de par la musique parce qu'il jouait dans Brigada. Et ouais, c'est un groupe qui m'a.
Un petit groupe qui
nous a. Qui nous a largement inspiré. Hein. C'est en partie à des. Bah, avec des groupes comme ça que bah, que je suis devenu Nusky et que bah, j'ai creusé aussi tout ce qui se passait autour de ça. Que j'ai remonté le temps, que j'ai avancé dans le temps. Enfin. Il a largement contribué au fait que voilà que je me sois intéressé à ce pont-là, même si je n'ai du punk à la base, mais à prendre cette direction-là, quoi, du moins.
On va faire une espèce de tour comme ça, comment j'ai rencontré Ezekiel. En fait, c'est marrant parce que c'est une espèce de toile araignée, tout ça.
Sur le coude, bien sûr.
Sur le coude, sur le coude. Partout où tu veux. Ouais. Tu peux la mettre où tu veux. Moi, j'en ai une sous le bras, personnellement. Ça ne regarde que moi. Oui, mais moi, j'ai rencontré Ezekiel grâce à un monsieur qui s'appelle Arnaud Rootboy, qui était le guitariste et un des fondateurs d'un groupe qui s'appelle Toulousain, qui s'appelle Bolshoï, bien connu, j'espère, de vos services. Et donc est ensuite devenu le guitariste de la Brigada. C'est grâce à lui donc que j'ai pu rencontrer ce monsieur qui est ensuite déjà devenu un ami, devenu mon tatoueur et devenu en plus de ça le bassiste avec grand plaisir de Shell Shock. Et je peux dire aussi que j'ai rencontré Alonso parce que plus ou moins grâce à l'ancienne chanteuse de Bolshoï, voilà, qui s'appelle Abby. Très marrant parce qu'on parle d'une histoire d'il y a 21 ans, c'est ça ?
Ouais, ouais, c'est ça,
21
ouais.
ans. Et on parle d'une histoire après d'il y a quoi, 5-6 ans qu'on se fréquente pour le plus grand bonheur des épiciers de notre quartier et pour le plus grand malheur de nos vies familiales. Mais et c'est exactement la même histoire. Voilà, c'est les choses ne changent pas comme ça maintenant l'année.
Ouais, ce qui est drôle, c'est
pour cette aventure de
les premières fois où vous êtes croisés, en fait, vous pouviez pas deviner que 10-15 ans plus tard, vous alliez former un groupe.
Non,
qui est beau dans le punk aussi. Quoi.
Non. Exactement. C'est magnifique.
Et sinon, Alonso et Ezekiel, vous confirmez cette version ? Parce que
c'est
parfois,
il y a... Moi, pas trop, mais...
Ah, voilà, je savais que vous pouviez y avoir un dossier.
Ah, ben oui, la récente, c'est juste une petite blague.
Ouais, bon, on a parlé Bolshoï, alors tu pourrais un petit peu, pas faire une historique, mais juste préciser ce que c'est, le mouvement Oi, et surtout, est-ce que c'est un mouvement ou pas politique ?
Parce que... je sais pas, j'ai découvert la Oi quand j'étais un peu plus âgé, parce que déjà quand j'étais jeune, tout ce qu'on savait de la Oi, de Moskinet, tout ça, ça ne nous plaisait pas.
Est-ce que la Oi est politique ? Non, là, il n'est pas politique. En fait, la musique, est-ce que la musique est politique? Non, la musique n'est pas politique. Qu'est-ce que c'est que la politique? On va aller loin comme ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que la politique?
Absolument.
À partir du moment où tu racontes ta vie, tu racontes ce qui se passe autour de toi, tu parles des problèmes sociaux, tu parles d'autres choses que de ton trou du cul ou ton œsophage ou je ne sais quoi. Tu parles de politique. La politique, elle est partout. Voilà.
Dans la vie.
Après, tu peux. Dans la vie, exactement. Elle est partout dans la vie. Après, tu peux utiliser un certain nombre de mots, une rhétorique qui soit très définie et qui te fasse de toi un militant politique et qui rende ta musique politique. Mais de toute façon, quelles que soient les paroles que tu racontes, que ce soit de groupes très politisés comme Crass ou jusqu'à Shell Shock, qui n'utilisent pas la même rhétorique, c'est politique. La vie, elle est politique. Donc, oui. Après, La Hoy a eu ce. Comment dire? Ce parcours un peu particulier, qui a été fait par des prolétaires, par des jeunes prolétaires qui étaient skinheads, une certaine partie a été à un moment donné déviée par le National Front, au début des années 80 en Angleterre. Donc elle a pu avoir à une époque une image quelque peu réactionnaire, voire fasciste. Ce qui était une forme de réalité, mais ce qui n'était pas toute la réalité. Il y avait, dans Jacob Starts, en passant par Four Skins, en allant jusqu'à des groupes comme Combat 84, qui étaient des groupes de rock against communist, il y avait tout un dégradé de musique et d'identité. Et ce qui reste aujourd'hui, c'est très clairement ceux qui n'étaient pas politiques et qui étaient des prolétaires, qui avaient une conscience de classe, mais qui ne l'exprimaient pas de façon avec une rhétorique militante, et ceux qui étaient plus politiques, comme des groupes comme Jacob Starts, qui étaient aussi des prolétaires et qui exprimaient aussi autre chose que de la politique. Voilà. Les restes, ils resteront dans les oubliettes de l'histoire, et voilà, à jamais.
Je rebondis sur le terme d'histoire, parce que est-ce que vous pensez que la connaissance historique d'un mouvement musical, de ses acteuristes, de sa culture, est nécessaire pour pouvoir l'appréhender, la représenter?
Je pense que c'est totalement nécessaire, parce que ça permet aussi de remettre les choses dans leur contexte d'une certaine façon. Pour la plupart des groupes de l'époque, c'était des groupes joués par des gamins qui avaient 14 piges. C'était des traînes la rue, des petits loupards, voilà, avec une esthétique propre qui leur est propre. Et bon, ben après, voilà, qui ont fait leurs armes, qui ont choisi des directions parfois peu compréhensibles sur le sens moral, mais compréhensibles dans un autre sens, parce qu'il y a l'environnement qui contribue largement à faire ce que tu peux devenir à ce genre d'âge aussi. Puis bon, après l'histoire a fait que les choses ont tourné comme elles ont tourné, mais c'est vrai que je trouve que c'est vraiment important que d'utiliser, on va dire, ce background là et tout ce contexte pour pouvoir essayer de comprendre l'essence même de la musique et puis de l'identité de ces groupes, quoi.
Ouais, mais aussi que c'est la scène Hoy, elle arrive un peu plus, comment dire, bien évoluée. Il y avait déjà ces petites agressions entre les fachos et les pas fachos, donc il y avait vraiment le choix à te dire, moi je suis engagé de ce niveau-là, à gauche ou à droite, quoi, tu vois. Donc ça, c'était depuis le début.
Ouais,
et pour nous, ça, moi je peux te dire, si je ne me trompe pas, ça a commencé dans les années 90, c'est assez récent. Mm-hmm. Bon, ça change un peu à comme on a connu la Hoy, on va dire, parce que c'était déjà étiqueté, on va dire.
basse et puis les deux côtés.
Fait un mélange d'un peu tous, toutes les musiques de jeunes révoltés. Alors, faut savoir un truc quand même. On n'est plus très jeunes, nous. C'est ça qui est assez marrant. C'est ça qui est assez marrant, mais ça explique un certain nombre de choses. C'est-à-dire que on a tous entre. Certains de. Deux d'entre nous approchent la quarantaine et deux d'entre nous approchent la cinquantaine. Mais on a tous ce point commun. On a tous commencé très jeunes. On a connu le punk à un moment donné qui était encore une musique de danger. Qui était une musique qui venait de la rue et qui avait grandi dans la rue. Aujourd'hui, les choses sont peut-être un petit peu différentes, c'est-à-dire que tout est très commercial, tout est très marketé, tout est très safe. C'est peut-être mieux, j'en sais rien. En tout cas, nous, ce qu'on a connu à l'époque, et c'est probablement là-dessus qu'on se rejoint, c'est qu'on est des sauvages et on fait de la musique de sauvages. Voilà. On n'a pas besoin d'affirmer un discours politique pour savoir ce qu'on est, parce que de toute façon, on parle de nous-mêmes, on ne peut pas être réactionnaire. On vient tous de milieux... du même milieu, mais on vient tous d'endroits du monde différents. Donc on va pas commencer à faire avancer nos trucs, à raconter une histoire qui sera complètement bidon, parce que l'histoire, elle est là. On n'a pas besoin de la raconter. Mais la réalité, c'est qu'on vient tous du même endroit, qu'on a tous traîné dans la rue, que ce soit à Metz, que ce soit dans le nord du Mexique, que ce soit à Buenos Aires, que ce soit à Paris, on a tous traîné dans des endroits qui se ressemblaient, qui n'étaient pas les mêmes, mais qui se ressemblaient. Et c'est ça qui fait peut-être un petit peu le moment, le fait qu'on se soit rencontrés, que ce soit entendu, et qu'on ait continué, et qu'on ait, on se soit basé là-dessus pour avancer, pour faire quelque chose.
On s'appelle cette chose.
Est-ce que ce ciment-là, qui semble naturel entre vous, c'est ce qui constitue une identité, quoi ?
De fait, en fait. De fait, elle a pas été écrite sur le papier avant de se rencontrer. On n'est pas passé chez un notaire avant de commencer à faire le groupe, si tu veux. Mais de fait, c'est comme ça, en fait. Tout se fait au feeling. On n'a pas de plan de carrière, on n'a rien, on s'en branle. On est des cassos d'un autre temps, si tu veux, mais des cassos qui construisent quelque chose. Voilà. C'est-à-dire qu'on est... Voilà, on va pas sans s'étendre sur nos vies aujourd'hui, mais il n'y en a pas un de nous qui est rentier ou qui vit sur sa rentabilité immobilière ou je ne sais quoi, etc. etc. Que ceux qui le fassent le vivent bien, ça ne pose aucun problème. Mais on est comme ça dans une réalité qui ne change pas depuis des années. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, à l'âge qu'on a, qui peut-être pour certains avancés, on n'a pas changé d'idée, on n'a pas changé de route, on continue à avancer là-dessus et on continue à y croire. Et c'est, j'espère, ça qui fera l'essence de notre de Shell Shock.
Donc on va pas s'attarder sur les paroles, j'ai l'impression que c'est pas l'essentiel, que vous représentez différemment, plus par qui vous êtes, En tout cas, pour vous, ça suffit. Simplement sur la bio là, de votre groupe, je ne sais pas si on peut dire comme ça, il y a écrit « Il fut précipité le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Alors, semble-t-il, c'est un extrait de la Bible, Apocalypse 12:9-11, traduite par John Darby, c'est ce que j'ai découvert.
Ah, dis donc,
je fais des recherches,
comme il faut.
Je voulais savoir un peu bon, d'où vient cette référence.
C'est une blague, déjà, c'est un peu ma faute.
C'est son délire, ouais.
Moi, je trouve, très honnêtement, j'aime lire, j'aime la littérature, j'ai lu quelques bouquins depuis que je suis en âge de lire, et je trouve qu'il n'y a pas de rhétorique aussi puissante que celle de la Bible, notamment sur un certain nombre de choses, et notamment cette phrase que tu viens de dire, elle ne veut rien dire, voilà. Pourtant elle a les mots les plus puissants de la terre, tu vois ce que je veux dire, t'as pas besoin de comprendre ce qu'elle veut dire pour être transporté quelque part, tu sais tout où tu es chez le malin, voilà, et nous sommes le malin.
Ouais, ce Matteo tout à l'heure qui disait que tout était politique, alors évidemment ça j'en suis convaincu. Alors moi je viens d'un courant un peu idéologique, musical, qui a fait ce que j'ai nommé sa révolution organique. Alors attention, vous allez me demander ce que c'est. C'est quoi la révolution organique? Alors pour moi c'est un rapport avec l'intime et l'éducation. C'est-à-dire que le punk avec la scène Emo Core à un moment donné a réfléchi autour de ces thèmes politiques que sont le corps, la sexualité, les conditionnements genrés, a essayé de les déconstruire. Je voulais savoir si la scène, vous venez donc du hardcore, se sont emparés un peu de ces thèmes et de ce qu'on peut nommer peut-être la révolution des émotions, quoi.
Donc toi, j'imagine que tu parles de Washington aux années 80.
Ouais, ou Ebullition par exemple, enfin toi, tout ce courant de philosophie punk, les mots corps, le punk emo, quoi.
Ouais, pour le coup, ouais, les autres, je peux pas parler en leur nom, mais bon, je sais que c'est pas forcément trop le secteur où ils... clairement ce qu'ils écoutent même d'ailleurs, sauf peut-être pour les trucs comme Rites of Spring ou Embrace, pour Aizé au moins, pour bien le connaître, quoi. Mais pour le reste, j'oublie ta question, excuse-moi.
Non, c'était sur l'idée de révolution un peu de l'intime. Ce truc incarné lié au corps, tu vois, et à l'émotion, la révolution intérieure, quoi.
Ouais, je pense que c'est quelque chose par lequel je suis passé par le passé d'ailleurs, et bah, que j'ai laissé grandir, mais que je creuse plus forcément parce que c'est quelque chose que j'ai assimilé.
Très tête, toi, un peu, sinon.
Ouais. Et qui se peaufine au fil des jours, en plus ou moins bien, de toute façon, en fonction de comment toi tu évolues également, et puis de tout ce qu'il y a autour de toi, de toute manière, tu vois, mais je le conscientise moins de façon brute, je réagis un peu plus instinctivement avec ce que je sais, tu vois, je m'appuie là-dessus pour avancer.
Ce qui est vrai, c'est que, alors, par rapport à tout ce que tu dis, moi, c'est pas du tout ce dont tu parles, c'est pas du tout une scène que je connais et qui m'a touché à travers les années. Par rapport au questionnement de genre, au virilisme, etc. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un vrai questionnement qui est posé sur le devant de la scène aujourd'hui, mais c'est pas sur le devant de la scène musicale, sur le devant de la scène sociale, sur le rôle de l'homme contre les femmes. Ça, c'est évident. Il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Je crois qu'aujourd'hui, plus personne, si ce n'est le dernier des gogols fascistes, pourra remettre en cause le fait qu'on vit dans un système patriarcal. Ça, c'est évident aussi. Après,
cette révolution qui, enfin cette évolution, révolution qui a lieu aujourd'hui, c'est quelque chose qui va prendre énormément de temps, c'est quelque chose qui va toucher le collectif, toucher les individus, c'est quelque chose qui prend des formes qui des fois sont peut-être maladroites, peuvent être aussi, comment dire, abrasives, des deux côtés, c'est-à-dire que il y a des hommes qui peuvent réagir entièrement de mauvaise, d'une mauvaise façon, c'est-à-dire bloquer l'avancée du truc, mais non pas parce que idéologiquement ils sont contre le truc, mais parce qu'ils se sentent attaqués personnellement et qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils font partie d'une oppression collective dont ils ne sont pas le seul responsable, etc., etc. Il y a aussi un certain nombre de, mais comme dans toutes les révolutions, un certain nombre d'excès qui sont faits de la part de certaines personnes se revendiquant, mais n'importe quelle, hein, c'est pas une question de genre, féministe radicale, qui, au lieu de continuer à faire avancer le Schmidt-Bic et continuer à faire avancer le débat, bloque le débat en le, comment dire, en faisant une guerre statique des hommes contre les femmes. Je ne pense pas que ce soit comme ça qu'on avancera. Il y a tout un tas de choses qui se passent, qui sont hyper intéressantes à étudier, et il faut, j'essaie de faire ça, je ne sais pas si j'y arrive toujours, mais j'essaie de faire ça, il faut toujours faire un pas de côté pour regarder ce qui se passe, et pour essayer de réfléchir sur ce qui se passe, sans être forcément ni juge ni parti. Il faut regarder les évolutions sociologiques comme elles se passent. Dans la scène aujourd'hui, la seule chose qu'on peut apporter, c'est notre réflexion propre, c'est surtout, à un moment donné, moi j'ai toujours cru ça, il faut être capable de se taire en tant qu'homme, il faut être capable de se taire, de ne pas juger, et de ne pas donner les leçons à qui que ce soit. Les choses, elles sont ce qu'elles sont. Le constat, il est établi. Aujourd'hui, nous, on peut faire qu'une seule chose, c'est de ne pas promettre des choses qu'on serait incapable de promettre, parce qu'on est tous, quelque part, les porteurs d'une culture patriarcale qui dure depuis des siècles et des siècles. Donc, on n'arrivera jamais à avancer comme des saints. On n'est pas des saints. Les saints n'existent pas. Les gens parfaits n'existent pas. Donc, que les hommes ferment leur gueule, que les femmes continuent à avancer leurs arguments de façon intelligible, qu'on puisse les entendre, qu'on évolue avec ça. Moi, c'est ma position aujourd'hui. Elle pourrait paraître assez pauvre pour certaines personnes qui attendent plus, mais je préfère dire la vérité et l'état des faits que de promettre des choses qu'on sera jamais capable de tenir, ou alors auxquelles on ne correspondra pas. Des féministes genrés masculins qui te font des promesses aujourd'hui, et moi ça me fait doucement rire, parce que c'est des mecs, et parce que les mecs c'est des mecs, et parce que les mecs ils ont des siècles et des siècles de culture masculine derrière eux, et ils ont beau vouloir retourner le truc en disant en levant le doigt, mais moi je suis meilleur en féministe, non mec, tu restes un mec. Vaut mieux assumer ça et essayer d'évoluer là-dessus que plutôt que de te dire de dire des trucs, de se faire le blanc mouton du troupeau. Et en fait, ça n'existe pas.
Rester humble.
Rester humble, bien sûr. Et puis surtout, moi, je dis un truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est peut-être aux femmes de parler, et c'est peut-être aux mecs de fermer leur gueule. Voilà, on est ce qu'on est, on a nos défauts, on peut toujours discuter en off, etc., machin. Mais sur le sujet et sur la scène médiatique qui concerne le féminisme et la libération des femmes, c'est aux femmes de parler, c'est pas aux hommes de venir l'ouvrir en disant « Mais je suis d'accord avec vous, etc. » Ouais, mais ça sert à quoi d'être d'accord, mec? En fait, tu vois, tu sais quoi? Fais !